France, Algérie, anatomie d'une déchirure.
Près de deux siècles après la conquête de l'Algérie par la France et 62 ans après la décolonisation, les relations entre la France et l'Algérie demeurent à vif, les mémoires tourmentées et instrumentalisées. Quelle est l'histoire des relations entre la France et l'Algérie? L'histoire d'une plaie impossible à cicatriser?
Thomas Negaroff.
Une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Benjamin Stora.
Épisode 4. 1954, la Toussaint Rouge.
Nous considérons avant tout qu'après les décades de lutte, le mouvement national a atteint sa phase de réalisation. Proclamation du FLN le 1er novembre 1954. Il y a parfois, Benjamin Stora, des jours historiques, des faux et des vrais. Là, c'est un événement. Le 1er novembre 1954, cette proclamation du FLN, Front de Libération Nationale. On va revenir sur les années d'avant qui ont préparé à cela, hein, puisque dans ce que je viens de lire, on parle de décades de lutte, l'aboutissement. Que se passe-t-il le 1er novembre 1954? Pourquoi cette date-là, on doit la connaître?
C'est une date importante parce que c'est le passage de la lutte armée d'un groupe de jeunes qui tous appartiennent au parti de Messaliage, mais qui veulent passer effectivement à l'action armée et se séparer du leadership exercé par le principal dirigeant de l'époque, qui était Messaliage, qui était le fondateur du mouvement indépendantiste, du mouvement nationaliste. Et ils vont créer une organisation, le FLN, principalement d'ailleurs formée de personnes qui ont été traumatisées par Sétif. C'est-à-dire par les massacres de Sétif et de Guelma de mai-juin 1945. Les massacres ont duré deux mois, hein, en mai-juin 45.
Peut-être tu peux en dire un mot.
Bah, ce sont des, en fait, il y a eu des manifestations pour commémorer, célébrer la fin du nazisme. Et à l'occasion de ces manifestations à Sétif, il y a des incidents qui ont éclaté. Et, disons, des Européens ont été attaqués, certains ont été tués. Et la répression a été absolument terrible, puisque des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens ont été tués pendant deux mois, en mai et juin 1945. Ça va représenter un véritable traumatisme, par exemple raconté par un grand écrivain algérien qui s'appelle Kateb Yassine, qui a écrit un texte très fort sur cette question-là, sur son éveil à la conscience nationale à partir de ce moment-là. Et c'est aussi à ce moment-là que des jeunes appartenant au parti de Messali vont pousser à l'action armée en créant une organisation secrète qui s'appelle l'Organisation Spéciale, l'OSS, et qui va donner naissance, qui est l'ossature, pourrait-on dire, de ce qui va constituer le Front de Libération Nationale en 1954. Donc en 1954, il y a un changement de leadership, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'on passe de mouvements nationalistes ou autonomistes qui fonctionnaient sur des règles classiques, c'est-à-dire manifestations, meetings, protestations, etc., à la lutte armée, les maquis, dans une situation qui est celle de la décolonisation et de la défaite française de Dien Bien Phu du 9 mai 1954,
juste avant,
qui est un coup de tonnerre pour tous les peuples colonisés. D'ailleurs, Ferhat Abbas avait eu cette formule en disant que Dien Bien Phu avait été le Valmy des peuples colonisés.
Est-ce que pour la métropole, la 4e République naissante, il y a un problème algérien? Est-ce qu'on sent monter les choses, et Sétif en est peut-être l'illustration, mais est-ce qu'il y a une forme de naïveté en métropole, à Paris en particulier, prise dans l'instabilité gouvernementale, ou bien on est assez conscient de la réalité sur le terrain?
Moi, je pense qu'on est quand même conscient, parce que c'est Pierre Mendès-France qui est président du Conseil, c'est François Mitterrand qui est ministre de l'Intérieur. Il y a une prise de conscience, c'est-à-dire qu'ils savent quelque chose qui ne va pas avec l'Algérie. Et François Mitterrand en particulier va essayer d'apporter des réformes à l'Algérie, en particulier en voulant transférer les policiers qui sont en Algérie vers la métropole. Que ce ne soient pas des policiers originaires d'Algérie européens. Il va échouer d'ailleurs, par parenthèse, dans cette tentative, parce qu'il sent, disons, que la population européenne d'Algérie, disons, a des comportements racistes, hein, à l'égard de la population indigène. Donc François Mitterrand et Pierre Mendès-France ont conscience de ça. Mais pour autant, ils ne vont pas jusqu'à envisager ou imaginer le passage à l'indépendance, pas du tout. Parce que pour eux, l'Algérie, c'est la France. C'est l'expression de François Mitterrand. En 1954, lorsqu'il va visiter les Aurès, il répète, l'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas d'autre autorité que la sienne. Hein, je le cite textuellement.
Alors pour le coup, c'était vrai.
Et pour
l'Algérie, c'était la France.
C'était la France, ce qui n'était pas le cas du Maroc. Ce n'était pas le cas de la Tunisie. Ouais. La décolonisation de la Tunisie avec le discours de Carthage de Pierre Mendès France en juillet, eh ben, dans le fond, ça se prépare. Même chose pour le Maroc, avec le retour du sultan du Maroc en 55.
Alors on revient le 1er novembre 54, ce qu'on appelle la Toussaint rouge. C'est le jour de la Toussaint, rouge parce que c'est une nuit d'attaque surprenante qui vont toucher qui et comment ?
C'est la première fois, effectivement, qu'en Algérie, depuis très longtemps, il y a des actions qui sont en fait coordonnées sur l'ensemble du territoire algérien. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y avait eu effectivement des gens qui avaient pris le maquis, comme par exemple Krim Belkacem avait pris le maquis en 47. Il y avait une tradition de ce qu'on appelait les bandits d'honneur, ça existait. Mais le fait que sur tout le territoire, d'ouest en est, il y ait des attentats qui sont commis sur l'ensemble du territoire algérien, ça c'est une grande nouveauté. Et dans cette coordination, il y a effectivement des cibles très simples que sont les casernes et les commissariats. Mais il y aura une bavure, entre guillemets, c'est l'assassinat d'un couple d'instituteurs, les Monroe, qui vont mourir dans leur autocar, enfin qui est arrêté dans les Aurès en particulier, qui va créer un grand émoi en France, parce que ce sont des instituteurs. Donc on a par conséquent le fait, quand on lit les rapports d'époque, des renseignements généraux, du gouverneur Léonard, etc., on a le sentiment qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer. Et qu'il faut essayer, par exemple, de négocier. Déjà, il y a les idées de négociation dès janvier 55. Janvier-février, Vincent Monteil, qui est un arabisant, etc., a l'idée de discuter avec des leaders. Il cherche des leaders. Il ne les trouve pas parce que, bon, comment dirais-je, le Front de Libération Nationale vit dans la clandestinité. Mais entre novembre 54 et le 20 août 55, il ne se passe pas vraiment beaucoup de choses. Mmh. Il y a quelques attentats, mais le véritable coup d'envoi de la guerre d'Algérie, c'est le 20 août 1955.
Que se passe-t-il ce jour-là ?
Le 20 août 55, le responsable de l'Est, encore une fois, c'est toujours l'Est, c'est l'endroit où a eu lieu la répression d'ailleurs, de Sétif et de Guelma, Zirout Youssef décide de lancer ses troupes à l'assaut des grandes villes, et en particulier la ville de Philippeville, aujourd'hui Skikda, et la ville de Constantine. Donc il lance à l'assaut, et beaucoup d'Européens ont été tués, et la répression, et là on entre dans la guerre, et la répression va être terrible, puisque plusieurs milliers d'Algériens vont être tués. Et c'est là que Jacques Soustelle, qui était un homme de gauche au point de départ, qui avait été envoyé en Algérie avec Germaine Tillon pour améliorer les conditions sociales, eh bien Jacques Soustelle modifie son comportement et décide d'entrer dans une guerre totale contre le nationalisme algérien et en particulier contre le FLN.
Tu dis, il décide, il n'y a pas de pouvoir politique qui contrôle tout ça depuis la métropole ?
Il y a effectivement une autonomisation progressive qui s'est installée.
C'est un des sujets majeurs.
C'est un des grands sujets majeurs, précisément, dans cette fiction qu'est l'Algérie française. C'est aussi le fait que ceux qui vont en Algérie, qui dirigent ce pays, s'autonomisent par rapport au pouvoir politique. C'est le cas d'abord des politiques eux-mêmes. Bien sûr, on le voit avec Jacques Soustelle, puis ensuite avec Robert Lacoste. Mais c'est aussi le cas des militaires, qui vont s'autonomiser par rapport au pouvoir politique.
On connaît bien l'euphémisation de la guerre d'Algérie, appelée les événements en métropole. Est-ce que l'euphémisation, elle est aussi sur les faits ? Est-ce que un habitant de métropole, j'imagine, je suis parisien, ou je suis rémois, ou je suis nancéen en 1955, je ne suis pas militaire, je n'ai pas de la famille militaire, je n'ai pas de famille en Algérie, qu'est-ce que je sais de ce qui se passe là-bas ?
Pour être très honnête, jusqu'en 56, pas grand-chose.
Ouais.
La couverture, comme on dirait aujourd'hui, médiatique est très faible. Là où ça va changer, c'est lorsque, en 1956, en mars, 9 mars 1956, Guy Mollet, qui a été élu pourtant sur un programme de paix en Algérie, qui est socialiste, va décider l'envoi du contingent en Algérie.
Alors là, c'est
un tournant, un de plus, mais radical.
Là, mon fils, tout d'un coup,
est appelé
en Algérie.
Le fils, le frère, le père est appelé en Algérie. L'oncle est appelé en Algérie. Le fiancé est appelé en Algérie. Et là, tout change. 400 000 hommes sont envoyés en Algérie.
Le fiancé, je pense immédiatement au parapluie de Cherbourg, bien sûr.
Bien sûr, au parapluie de Cherbourg ou Adieu Philippines.
Voilà.
Le beau film de Jacques Rosier. Donc, on a par conséquent un tournant. Et ce tournant, il va se matérialiser dans l'esprit des gens par ce qu'on appelle Palestro, le drame de Palestro. C'est-à-dire que des appelés jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, tombent dans une embuscade tendue par le commando Ali Khodja et ils vont être tués dans des conditions atroces. Et là, la France se réveille. La France voit pour la première fois, en mai 1956, la guerre d'Alger. Ouais. Et ça, c'est un choc pour l'opinion publique française.
Un choc qui va traduire une accélération aussi de la militarisation. Est-ce qu'on commence à parler de guerre d'Algérie à ce moment-là, d'ailleurs, en France ?
Oui, absolument. Ouais. Contrairement à ce qu'on croit, on parle de la guerre d'Algérie. Ouais. Par exemple, à l'Assemblée nationale, on dit, attention, on peut plus se contenter de dire que ce sont de simples événements, des opérations de police, on dirait des opérations spéciales aujourd'hui.
Oui.
Non, là, le mot guerre commence à être utilisé.
Et en plus, dans la chronologie, on est à l'indépendance de la Tunisie et du Maroc.
Oui.
Donc là, il y a une tectonique des plaques maghrébines qui bouge très vite et dans un sens très dangereux pour la France.
C'est très dangereux parce qu'effectivement, en mars 1956, au moment où il y a le vote des pouvoirs spéciaux, c'est l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Donc il y a par conséquent effectivement la possibilité pour ces deux pays devenus indépendants de servir de base arrière.
Et oui.
Aux gens de l'ALN, c'est-à-dire de l'Armée de Libération Nationale, qui peuvent y installer des camps d'entraînement, etc., etc.
T'as parlé des pouvoirs spéciaux, il faut m'expliquer ce que ça veut dire.
Les pouvoirs spéciaux, c'est très important. C'est que on envoie le contingent en Algérie, c'est-à-dire les gens qui font leur service militaire partent en Algérie, sauf exception. Deuxièmement.
Combien de
400 000 hommes au total.
400 000 jeunes Français.
400 000, c'est le chiffre de manière régulière. Et on peut estimer aujourd'hui que tous les hommes nés entre 1932 et 1943 sont allés en Algérie. Ils étaient en Algérie.
Et je pense au beau livre de Raphaël Branche, Papa, qu'as-tu fait en Algérie? Parce que souvent au retour, papa ne raconte pas beaucoup s'il revient.
Non, il ne raconte pas. On le voit par exemple dans le film de Jacques Rosier, cette scène où le type revient chez lui, il a toute sa famille autour de lui, et on lui dit « Alors Dédé, qu'est-ce que tu as vu en Algérie ?» Il lève sa tête et il dit « j'ai rien vu en Algérie. »
Voilà.
« J'ai rien à dire. » Et ça, c'est un truc extraordinaire. Il y a ça d'une part, et d'autre part, je retiendrai des pouvoirs spéciaux quelque chose de terrible, c'est ce qu'on appelle les zones interdites. Les zones interdites, c'est-à-dire qu'on évacue les populations, qui, normalement les zones sont vidées de leur population, et par malheur, si quelqu'un y est encore, il est abattu. Il y a un livre de Daniel Zimmerman qui raconte cela, qui s'appelle « Zone interdite », et à ce moment-là commence le déplacement forcé entre 56 et 61, de 2 millions de paysans algériens.
Y a-t-il une réactivation à ce moment-là de la mémoire de 1830, de part et d'autre de la Méditerranée ?
Non, du côté de Français, puisque comme j'ai essayé
l'amnésie.
De dire... il y a une amnésie sur ce qu'a été la conquête. Elle a été totalement effacée, mais pas dans le souvenir des Algériens, qui, eux, n'ont jamais oublié la conquête. C'est-à-dire, du côté des Français, il y a l'installation de la colonisation heureuse et de la mission civilisatrice. Mais du côté algérien, non. Alors, il y a effectivement une élite algérienne quand même qui a profité quand même, je veux dire, de l'instruction qui a commencé à se développer après 1945. Il y a la naissance des premiers grands écrivains algériens de langue française. Bien sûr, je parlais de Kateb Yassine, il y a Mouloud Mamri, bien sûr. Il y en a d'autres, il y a Mohamed Dib, Assia Djebbar, qui sont issus de l'école républicaine française, Mouloud Feraoun, qui a été assassiné par l'OAS le 15 mars 1962, qui est un instituteur, a écrit un livre magnifique, son journal, que je recommande d'ailleurs, le journal d'un instituteur qui a cru en la France et qui a été assassiné par l'OAS. Passons là-dessus. Donc il y a par conséquent, effectivement, non pas le souvenir de tout cela, mais le fait de l'incompréhension devant la révolte.
Ah oui. Bien sûr, parce que c'est intéressant, toi qui as tellement travaillé sur la mémoire, c'est l'absence de cette mémoire de 1830, 1850, qui fait qu'il y a une espèce de surprise.
Oui.
Mais pourquoi ces gens-là que nous avons civilisés et apportés tellement de bonheur se révoltent contre nous ?
Absolument, il y a cette espèce d'inconscience ou d'aveuglement. Je ne prendrai qu'un exemple. Vous savez, en 1947, il y a eu des élections municipales, les seules libres dans l'Algérie coloniale, à deux collèges. Il y avait un premier collège pour les Européens, le deuxième collège musulman. Eh bien, au second collège de 1947, 100% des élus étaient indépendantistes. En 1947, c'était pas... Vous voyez ? Donc, il fallait être aveugle pour pas comprendre. D'ailleurs, les élections d'après ont été truquées par Nejlen. Donc, il y avait une très grande volonté de changement qui existait dans la société. Et effectivement, il y a un aveuglement à ce niveau-là.
Et il y a...
Dénoncé par Camus, par parenthèse. Parce que Camus, dès 1946, il condamne les massacres de Sétif. Il est un des rares Français, même le seul intellectuel français, à condamner les massacres de Sétif. Et il dit, avec son ami Jean Amrouche, il faut vite changer la condition aujourd'hui des indigènes musulmans en Algérie.
J'aimerais terminer cet épisode sur cette première partie de la guerre d'Algérie avec 1957. C'est une année majeure. En quoi est-elle si importante et une bascule réellement dans ce conflit ?
Une bascule parce que c'est ce qu'on appelle la bataille d'Alger. C'est l'affrontement terrible entre les commandos du FLN qui pratiquent la terreur urbaine, la répression, la torture, des disparitions. Près de 3000 Algériens disparaissent pendant la bataille d'Alger, donc c'est terrible.
C'est les pleins pouvoirs accordés
c'est
à l'armée.
C'est les pleins pouvoirs, la démission de Paul Tegen, qui était le secrétaire général de la police. Et cette victoire militaire, pourrait-on dire, entre guillemets, s'accompagne d'une crise morale colossale. C'est-à-dire que là, en France, la gauche se fracture complètement. Il va y avoir la création de la nouvelle gauche. L'Église se fracture aussi, les syndicats se fracturent, tout le monde se fracture. Et donc, la politique se fracture à un point tel qu'elle va aboutir au renversement de la 4e République.
Et justement, la fin de la guerre d'Algérie, la fin d'une histoire, ça sera donc l'objet du prochain épisode. France-Algérie, anatomie d'une déchirure, est un podcast original de France Inter.